Merci Père Givko et merci à vous de m'inviter dans votre paroisse très, très chaleureuse. C'est pour moi une grande joie d'abord de faire votre connaissance et de pouvoir avoir ce moment d'échange avec vous. Je suis donc invité à parler de la conciliarité et de la sobornost dans l'Église orthodoxe russe et dans l'Église catholique. C'est un thème qui est d'actualité, puisque c'est le thème qui a été choisi par la Commission internationale catholique orthodoxe qui s'est réunie il y a 3 semaines à Belgrade. Et donc c'est un thème qui est très important, la conciliarité. Je voudrais commencer par dire que on se réfère souvent au concile de 1917-18, entre autres justement parce qu'il a promu cette sabornost, cette conciliarité, comme on se réfère souvent au Concile Vatican II, parce qu'il a aussi promu ce qu'on a appelé la collégialité. On verra quelle est la différence entre la collégialité et la conciliarité, mais il est parfois dangereux de se référer uniquement à l'esprit des conciles sans regarder exactement la teneur des débats et en particulier les décisions qui ont été prises. Et il peut être dangereux même de se référer uniquement à l'esprit d'un concile. Par exemple, on s'est référé à l'esprit de Vatican II pour faire bien des innovations dans la liturgie. Et parfois, je constate qu'on se réfère aussi à l'esprit du concile de 1917-18, notamment à un esprit soi-disant démocratique. Comment dire, pour une application aujourd'hui qui parfois s'éloigne un petit peu de ce qui avait été vraiment débattu dans le cadre de ce concile. Alors je voudrais faire tout simplement deux parties. Première partie, je vais essayer de définir ce que c'est que la sobornost, et une deuxième partie, voir comment cette conciliarité a été appliquée également, réfléchie en tout cas dans le cadre du Concile Vatican II. Donc d'abord la sobornost. Je voudrais essayer de définir ce que c'est que cette sobornost, de la définir par rapport à ce qu'on appelle en particulier la synodalité ou la collégialité. Alors d'abord il faut savoir qu'en russe il y a deux mots qui sont synonymes, synode et sabor. C'est exactement le même mot, sauf que l'un est d'origine slave, l'autre d'origine russe. Le synode et le sabor, c'est exactement la même, comment dire, le même concept. Mais dans le contexte russe, on utilise le mot synode, donc qui est d'origine grecque, à propos du Saint-Synode, c'est-à-dire un organe permanent de gouvernement dans l'Église, et le terme sabor a un organe qui est temporaire, qui se réunit de façon régulière. Il y a plusieurs types de sabor, donc de conciles. Il y a des conciles qui sont épiscopaux et il y a des conciles qui sont locaux. Un concile local, c'est un concile qui réunit non seulement des évêques, mais également des prêtres et des laïcs. Et c'est l'originalité de ce concile de Moscou que d'avoir réuni non seulement des évêques, mais également des prêtres et des laïcs, comme on le verra. Alors, dans le contexte russe, il y a aussi, il faut noter, une certaine opposition entre la synodalité et la conciliarité. Entre la synodalnost, qui est comment dire, qui est un peu le terme qui caractérise toute la période inaugurée par Pierre le Grand et jusqu'au concile de 1917, où c'est le Saint-Synode qui a dirigé l'Église russe, puisque Pierre le Grand, comme vous le savez, a supprimé le patriarcat. Et donc, toute cette période, on l'appelle la période synodale. Période synodale. Et donc, la synodale, c'est le, disons, c'était le principe qu'avait mis en place Pierre le Grand pour gouverner l'Église, qui était un principe collégial, c'est-à-dire qu'il disait, ben, finalement, il vaut mieux il avait d'ailleurs appliqué ce principe à tous ses ministères. Il vaut mieux, comment dire, contrebalancer et mettre comment dire, en débat les différentes instances gouvernantes de l'Église, et donc supprimer le patriarcat qui faisait un peu concurrence au pouvoir impérial. Il y a en réalité plusieurs acceptions de la sobornost. La sobornost, elle a donc été formulée, elle a été conceptualisée par les slavophiles au XIXe siècle, qui se sont opposés à cette synodalnost ou à cette collegialnost que Pierre le Grand avait instaurée. La sobornost, c'est donc un principe qui a pour objectif de retrouver les sources originelles de l'Église et en particulier l'articulation des différents membres du corps du Christ, qu'ils soient laïcs, clercs ou évêques. Alors, pour les slavophiles, la sobornost, c'est avant tout une notion philosophique et théologique. Par exemple, Serge Troubetskoï a écrit un livre qui s'appelle L'essence collective ou conciliaire, Sabornaya, de la conscience humaine. Et pour lui, tout être humain est par nature conciliaire. Il y a dans la psychologie de l'être humain, plusieurs principes qui doivent entrer en débat, en concile. Pourquoi? Parce que tout simplement l'être humain est créé à l'image de la Trinité. Et la Trinité est elle-même conciliaire, Père, Fils et Esprit Saint. Et la Trinité, donc nous sommes créés tous et chacun de nous à l'image de cette Trinité conciliaire, et l'Église elle-même est à l'image de la Trinité. Komiakov, qui est l'inventeur de ce néologisme, la sobornost, se réfère à une lettre écrite par les patriarches orientaux. Tous les patriarches orthodoxes ont écrit effectivement en 1848 au pape Pie XI en lui disant, je cite, « Chez nous, ce ne sont pas les patriarches ni les conciles qui pourraient introduire une nouveauté quelconque. « Car le gardien de la religion, chez nous, c'est le corps même de l'Église, c'est-à-dire le peuple. » Le peuple. Donc, pour Komiakov, d'une certaine façon, c'est ce peuple qui est, comment dire, le critère de la conciliarité, c'est le peuple qui est le fondement de l'Église. Et on peut considérer que sa conception de l'Église est avant tout une conception démocratique. Il y a une deuxième acception de la sobornos qui est une acception qu'on appelle épiscopaliste. C'est tout simplement de dire, eh ben, la sobornos, c'est le gouvernement par le concile. La conciliarité, ben, avant que d'être la participation du peuple de Dieu, c'est le gouvernement de l'Église par des conciles. C'est ce qu'on appelle donc l'épiscopaliste. Pourquoi? Parce que dans les conciles, on sous-entend que, il n'y a que les évêques qui peuvent participer au débat et au vote. Donc, une première acception qui est l'acception démocratique, une deuxième acception plutôt épiscopaliste, une troisième acception que je dirais charismatique. Charismatique, pourquoi? Parce qu'elle cherche à respecter les charismes de chaque membre du corps du Christ. Les évêques, les prêtres, les laïcs, sans que les uns empiètent sur le charisme des autres. Et ces différentes acceptions de la sobornost, donc qu'elles soient une acception démocratique, qui est finalement assez slavophile, mais qui va être un petit peu aussi exacerbée par le contexte révolutionnaire en 1917, une acception plutôt épiscopaliste, qui considère que le conciliarisme, eh bien, ou la conciliarité, c'est le conciliarisme, c'est-à-dire que c'est le gouvernement de l'Église par les conciles, sous-entendu composé exclusivement d'évêques. Et troisième compréhension de la conciliarité ou de la sobornost, eh bien, c'est une acception charismatique. Et ces trois acceptions différentes de la conciliarité vont entrer en concurrence au moment du concile de 1917-18. Et c'est finalement l'archevêque Serge qui sera le promoteur de cette vision charismatique qui va l'emporter. L'archevêque Serge, qui est donc le futur patriarche Serge Stragarutski, qui sera donc le locum tenens du patriarche dans l'entre-deux-guerres et qui sera finalement élu patriarche en 1944. Celui qui est à l'époque donc l'archevêque Serge de Finlande promeut une conception de la conciliarité qui n'est ni démocratique ni épiscopaliste, mais qui cherche à respecter les charismes de chacun des membres du corps du Christ. Et comment cela se manifeste-t-il? Comment cela se traduit-il concrètement dans les procédures? Car un concile, c'est avant tout des procédures. Eh bien, ça va se traduire d'une façon très originale par le fait qu'au sein même de l'Assemblée générale du concile, au sein de laquelle il y aura plus de laïcs que d'évêques, eh bien, on va distinguer une conférence des évêques qui aura un droit de veto sur les décisions du concile. Et donc c'est très intéressant parce que tout le monde avait part au débat et tout le monde avait droit de vote au concile, les laïcs comme les prêtres, comme les évêques, mais toutes les décisions du concile devaient passer à travers le filtre de la conférence des évêques. Et ainsi, à la fois, on a respecté la voix des laïcs, mais on a aussi donné aux évêques la possibilité d'avoir le dernier mot. Un droit de veto, c'est peut-être mal m'exprimer que de parler d'un droit de veto, mais parce qu'il ne s'agissait pas de deux chambres, mais c'est en tout cas l'astuce qui a été trouvée par l'archevêque Serge pour finalement respecter le charisme de chacun des membres du corps du Christ. Ainsi, la procédure de vote au sein du concile était en deux temps, d'abord vote général et puis après assentiment de la conférence des évêques. Et ça, c'est très important parce que ça a permis au concile de respecter finalement le charisme de chacun. Alors, la conciliarité ne s'est pas limitée simplement à la procédure qui a été mise en place dans le cadre du concile, mais le concile a lui-même pris un certain nombre de décisions pour promouvoir la conciliarité, c'est-à-dire pas tellement, quand on dit conciliarité, je ne veux pas dire qu'il a promu les laïcs, ce serait mal comprendre le concile, mais il a essayé de promouvoir donc cette articulation des charismes de chacun. Il l'a promu dans le gouvernement de l'Église, et en particulier dans le gouvernement suprême de l'Église, en rétablissant d'abord le concile, car le concile, comme le patriarcat, avait été supprimé par Pierre le Grand. La première décision du concile de 1917-18, eh bien, c'est de rétablir le principe conciliaire, c'est-à-dire de dire que dans l'Église orthodoxe, c'est le concile qui est, c'est pas le patriarche, mais c'est le concile et le concile local qui est l'instance suprême de gouvernement. Et cela est très important puisque c'est grâce au concile de 1917 que jusqu'à nos jours, eh bien, l'instance suprême de gouvernement dans l'Église russe, c'est le concile. Et dans l'Église orthodoxe d'une façon générale, mais enfin, c'était déjà le cas ailleurs, dans les autres églises orthodoxes. Mais c'est grâce au concile de 17-18 que des conciles ont pu être à nouveau convoqués dans l'église russe. Alors il y a eu des conciles locaux en 1945. Le concile local de 1945 a élu le patriarche Alexis Ier, car le patriarche Serge avait été élu simplement par un concile épiscopal. En 71, le concile local, c'est-à-dire composé d'évêques, de prêtres, de laïcs, a élu le patriarche Pimène. En 88, concile local, qui était le concile du millénaire du baptême de la Rousse, et enfin en 90, concile local électif du patriarche Alexis II. Le concile local de 90, c'est donc le dernier concile local qui a été convoqué. Donc vous voyez qu'il y a eu peu de conciles locaux depuis 1917, ce sont essentiellement des conciles électifs, 45, 71, et 90, pour élire à chaque fois des patriarches. Le seul concile local non électif, c'est le concile qui a célébré le millénaire de la Rousse en 88. Il y a eu également des conciles épiscopaux, et même nombreux. Je ne mentionnerai que le premier d'entre eux, celui de 44 qui a élu le patriarche Serge, et le dernier, il y en a eu un en 2004, mais celui de 2000 est particulièrement important car il a donné à l'Église orthodoxe russe de nouveaux statuts. Un statut particulièrement intéressant car il revient à la procédure de 1917 pour la procédure de vote au sein du Concile. C'est-à-dire que le statut actuel de l'Église orthodoxe russe, celui de 2000, est revenu à la procédure de décision de 1917, c'est-à-dire que l'ensemble des participants au concile, c'est-à-dire prêtres, évêques et laïcs, ont le droit de vote, ont voix délibérative, mais c'est la conférence des évêques a un droit de veto. Après, elle peut repousser telle ou telle décision si elle le souhaite. Et cela, donc, c'est un point très important, très, me semble-t-il, positif, car à l'époque soviétique, c'était la procédure inverse qui était mise en place, c'est-à-dire que les décisions étaient préparées par les évêques et après on demandait au concile local d'approuver ou d'entériner finalement des décisions qui étaient prises à l'avance. C'était l'application un peu du centralisme démocratique. Mais bon, c'est plutôt un progrès, je dirais, que ces statuts de 2000 reviennent à la procédure de 1917. Donc, ça, c'est la première décision, rétablissement du concile, qui marque un retour du principe conciliaire dans l'Église orthodoxe russe. Et le concile, donc, a le pouvoir suprême dans l'Église orthodoxe, et donc le concile de 17 détaille ces quatre pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir administratif, pouvoir judiciaire, pouvoir de contrôle. Donc c'est lui qui est l'autorité suprême dans l'Église orthodoxe. Et c'est dans le cadre de ce rétablissement du concile qu'est intervenue la recréation du patriarcat. Souvent on retient du concile de 1917 que oui, c'est ce concile qui a rétabli le patriarcat. Mais avant de rétablir le patriarcat, c'est le concile. Et c'est d'abord parce qu'il a rétabli le concile que l'Assemblée 1917 a pu recréer, et je dis bien recréer, l'institution patriarcale. Pourquoi recréer ? Parce qu'on n'a pas simplement restauré l'institution patriarcale telle qu'elle existait avant sa suppression par Pierre le Grand. On a vraiment réfléchi à la place du patriarche comme un primus inter pares, un premier parmi les évêques. C'est lui qui est le président du Saint-Synode, il a un certain nombre de droits propres, en particulier liturgiques, mais il n'est pas... évidemment, on craignait beaucoup en 1917 de rétablir ou de créer un pape orthodoxe, et cela n'est pas du tout le cas. Et le concile de 1917 avait notamment prévu l'élection du patriarche par l'ensemble des membres du concile, donc, et aussi par des laïcs, et c'est toujours, comme vous savez, ce qui se pratique. L'Église orthodoxe russe élit toujours son patriarche avec des assemblées conciliaires composées, cette fois-ci, non plus d'une majorité de laïcs, car le concile de 1917 avait prévu que chaque diocèse serait représenté par 3 clercs et 3 laïcs, et donc avec ce système, on avait abouti au fait que finalement les laïcs avaient la majorité par rapport aux clercs. Actuellement, chaque diocèse est représenté par un évêque, un prêtre et un laïc. Alors, le concile de 1917 a rétabli le principe conciliaire également dans le gouvernement suprême de l'Église, en instituant à côté du Saint-Synode, car le Saint-Synode n'a pas été supprimé. C'est sûr qu'on parle souvent de la période de Pierre le Grand comme la période synodale, mais le Saint-Synode n'a pas été supprimé par le concile de 17, mais à côté du Saint-Synode, le concile de 17 a instauré un organe qui s'appelle le Conseil suprême de l'Église. Et ce Conseil suprême de l'Église, il est très intéressant, car il s'occupait, d'abord parce qu'il était composé aussi, il était mixte, il y avait des laïcs, et il s'occupait si on peut parler ainsi, du temporel de l'Église, c'est-à-dire de tout ce qui est administratif. Tandis que le Saint-Synode avait des compétences essentiellement spirituelles ou théologiques, le Conseil suprême de l'Église était une instance de gouvernement ecclésiastico-social, si on veut, qui avait une compétence dans les domaines juridiques ou politiques ou économiques. Au plan de l'éparchie ou du diocèse, le concile de 17 restaure également le principe conciliaire de plusieurs façons. D'abord en instituant le principe de l'élection de l'évêque. Alors, ça ne veut pas dire que tous les fidèles d'un diocèse sont invités à élire l'évêque, c'est une procédure plus complexe. C'est l'assemblée diocésaine qui est elle-même composée de représentants des paroisses qui propose un certain nombre de candidats qui doivent être approuvés par le Saint-Synode. Et donc, en fin de compte, l'évêque l'évêque diocésain est quand même élu par le diocèse, et mais il n'est pas le seul à gouverner le diocèse. Il y a également un conseil éparchial ou un conseil diocésain qui est également composé de membres clercs et laïcs. Ça, c'est une décision de 1917. Au niveau de la paroisse également, le concile de 17 veut rétablir ce principe conciliaire. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont les laïcs qui prennent le pouvoir dans la paroisse, loin de là. Au contraire, le concile de 17 décide de redonner aux prêtres, qui étaient en fait à l'époque synodale souvent un simple fonctionnaire qui dépendait très étroitement des consistoires diocésains, qui étaient un organe bureaucratique de contrôle. Donc, le concile de 17 décide de donner à la paroisse une personnalité juridique, et il institue le prêtre de la paroisse, le curé de la paroisse, responsable à la fois du temporel et du spirituel, pas seulement du spirituel, parce qu'après les soviétiques vont chercher à cantonner le prêtre dans un rôle purement spirituel, en particulier sous Khrouchtchev en 61, et on fera finalement du prêtre un simple fonctionnaire de la paroisse qui en fait est gouverné par le staroste. Starost nommé bien sûr par le parti, eh bien le concile de 17 a essayé d'empêcher cela, mais il ne l'a pas pu. Avait essayé de prévoir, disons, d'anticiper ce risque en instituant le prêtre, curé de la paroisse, responsable à la fois du temporel et du spirituel, avec aussi bien sûr des organes de contrôle et un rôle très, très important accordé au staroste ou au marguillier. Donc la conciliarité a été vraiment, disons, le leitmotiv et le principe introduit par le Concile de 1917 à tous les niveaux de l'Église, au niveau donc, du gouvernement suprême, au niveau diocésain, au niveau paroissial et même au niveau monastique, où on décide que l'higoumène doit gouverner son monastère d'une façon conciliaire. Alors, cette conciliarité n'a pas forcément été bien comprise ni bien acceptée, en particulier par un certain nombre de théologiens de l'émigration, notamment le père Nikolaï Afanassiev, et également par le père Serge Bulgakov, qui pourtant a été membre du concile, par le père Alexandre Schmemann aussi. Ils ont assez critiqué finalement disons que cette conciliarité, en tout cas ce qu'ils croyaient être la conciliarité telle qu'elle était instaurée par le concile de 1917-18. Je veux dire simplement quelques mots, même si c'est difficile de résumer la pensée d'auteur aussi à la pensée aussi subtile que le père Nikolaï Afanassiev, mais disons en gros que le père Nikolaï a voulu remettre à l'honneur les trois fonctions de tout baptisé, donc de prêtre, de prophète et de roi. Et pour lui, l'exercice du ministère royal et prophétique des laïcs doit s'exercer avant tout sous la forme du témoignage, mais pas sous la forme d'un gouvernement représentatif ou de l'enseignement par les laïcs. Et il dit finalement que le concile a fait exactement l'inverse. Il a donné aux laïcs des fonctions dans l'administration et même dans la prédication, car le concile décide qu'avec l'autorisation de l'évêque, certains laïcs qui auront été formés spécialement pour ça et auront été institués pour ça pourront prêcher. Eh bien, le père Nikolaï Afanassiev reproche beaucoup au concile d'avoir permis cela, permis donc de donner aux laïcs un rôle dans le gouvernement de l'Église et dans la prédication, tout en les écartant finalement de ce qui pour lui est le plus important, c'est-à-dire comment dire, la dimension sacerdotale du baptême, de la liturgie. Il dit finalement, on a laissé les clercs seuls autour de l'autel, alors qu'on aurait dû finalement faire plus participer les laïcs comment dire, à la célébration, à la célébration au culte de l'Église. Et on les a introduits dans le gouvernement et dans la prédication, alors que cela, ça suppose un charisme propre, qui est celui des évêques. Voilà, en gros, pour résumer, je peux citer, par exemple, quelques passages de Père Nicolas Afanassiev. C'est dans son livre que vous connaissez sans doute, qui s'appelle « L'Église du Saint-Esprit ». Il dit, les laïcs ne peuvent être ni co-administrateurs, ni co-docteurs. Ou encore, il dit, tout le peuple de Dieu est appelé au ministère sacerdotal, car chacun, en entrant dans l'Église, est établi en vue de ce ministère par le don de charisme du sacerdoce royal. C'est pourquoi, dit-il, les laïcs concélèbres, ils sont les co-liturges de leur proestotesse, du président. Mais ils ne peuvent donc être ni co-administrateurs, ni co-docteurs. Voilà une critique donc, du Concile de 1917. Il y a d'autres critiques parmi les théologiens de l'immigration, notamment le père Alexandre Schmemann, qui a comment dire, reproché au Concile de 1917-18 d'avoir séparé le temporel et le spirituel. Alors, en réalité, mais je ne veux pas entrer dans les détails, ces critiques sont très intéressantes et elles pointent du doigt des dangers, les risques qui auraient pu être ceux du Concile de 1917-18, mais à mon avis, mais je ne vais pas entrer dans les détails, elle relève plus de l'idée qu'avait le père Alexandre Schmemann et le père Nicolas Afanassiev, de l'idée qu'ils avaient du Concile de 1917-18 que de la réalité. Quand on regarde dans les textes même du Concile, à aucun moment, en réalité, le Concile n'attribue un véritable pouvoir de gouvernement aux laïcs. Et à chaque fois qu'il confie une certaine responsabilité aux laïcs, c'est toujours dans le cadre d'une articulation générale des charismes de chacun des membres du corps du Christ. Par exemple, à chaque fois qu'il institue le principe électif, l'élection doit être confirmée par le supérieur. Les assemblées de conseils ou d'assemblées, même s'il y a la présidence des conseils et des assemblées, même s'il y a des laïcs, doit être confiée à l'évêque. Et puis enfin, il y a toujours ce fameux droit de veto, donc de la conférence des évêques, soit de l'évêque dans son conseil éparchial. À chaque fois, donc, il y a un certain nombre de garanties, si vous voulez, qui permettent d'éviter ce que redoute le père Nicolas Afanassiev. Voilà ce que je voulais dire sur ce concile de 17 et sur le principe de la conciliarité qu'il a mis en place. Je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, voir comment ce principe de la conciliarité a aussi inspiré la théologie et la pratique catholique du XXe siècle, et en particulier depuis Vatican II. La transition, ça sera un théologien que j'aime beaucoup, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle, et ce n'est pas parce qu'il est dominicain que je l'aime beaucoup, mais c'est Yves Congar. Yves Congar, qui était un très bon connaisseur de la théologie russe, et en particulier de cette sobornost. Et c'est grâce à Congar qu'on a redécouvert cette conciliarité, cette sobornost. Et je crois que c'est grâce à Congar que certaines idées, certaines valeurs qui sont le bien commun de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe ont pu être redécouvertes lors du Concile Vatican II. Et avant, bien sûr, parce qu'il a commencé à s'intéresser aux slavophiles et à cette notion de sabornost dès les années 30. Le père Congar était soucieux de revenir effectivement aux sources de l'ecclésiologie patristique. Et il reprochait beaucoup à l'ecclésiologie catholique des années de la période post-tridentine, donc après le Concile de Trente et jusqu'à au Concile Vatican II, d'être tombé dans la hiérarchéologie, ce qu'il appelait la hiérarchéologie, c'est-à-dire le fait d'avoir finalement confondu l'ecclésiologie, donc la doctrine de l'Église, avec avec la hiérarchie, pape et cardinaux, évêques, prêtres, laïcs étant les derniers finalement dans cette hiérarchie. Et donc il souhaite revenir à une dimension plus collégiale du gouvernement dans l'Église. Et c'est lui qui va proposer de traduire, et c'est le premier à le faire, la sabornost par collégialité. Notamment, il le fait dans son livre qui s'appelle Jalons pour une théologie du laïcat. Il dit sabor vient du verbe sabirat, ou sabrat au perfectif, qui signifie cueillir, recueillir, colliger. Bref, très exactement ce que la tradition canonique et théologique occidentale a mis sous les mots colligere, collegium. Il ne faut pas hésiter à traduire sabornost par collégialité ou principe collégial. Et donc, c'est grâce à Congar que cette collégialité, qui avant n'était pas très utilisée dans le langage théologique, ecclésiologique catholique, a fait son entrée lors du Concile Vatican II. Et notamment dans cette célèbre encyclique Lumen Gentium, qui est donc le texte ecclésiologique qui est un peu le symbole du Concile Vatican II. Ce texte de Lumen Gentium est très intéressant. Pourquoi? Parce que il commence à définir l'Église comme un mystère. L'Église, c'est pas d'abord le pape, les évêques, les prêtres et les laïcs. C'est un mystère. C'est un mystère qui prend sa source dans la Trinité. Donc c'est exactement ce que disaient aussi les slavophiles, si vous vous souvenez, sur la nature conciliaire de l'âme humaine, sur la nature conciliaire de l'Église, qui prend sa source dans la Trinité. Et ce qui est très intéressant, c'est que avant même de parler de la constitution hiérarchique de l'Église, cette encyclique, Lumen Gentium, parle du peuple de Dieu. Donc là aussi, on retrouve d'une certaine façon Komiakov qui disait, chez nous, c'est le peuple de Dieu qui est le critère qui est le fondement de l'ecclésiologie. Donc avant même de parler des évêques, on parle du peuple de Dieu. Quand on parle du peuple de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on parle des laïcs, ça veut dire qu'on parle de l'ensemble de l'Église, les évêques faisant partie du peuple de Dieu. Et cela est très important, car peuple de Dieu, c'est aussi une notion de l'Ancien Testament. C'est un peuple en marche. Ce n'est pas une Église figée à tout jamais dans ses structures. C'est aussi un peuple qui est marqué par qui est avant tout caractérisé par son baptême, et donc par ses trois fonctions de prêtre, prophète et roi. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à remettre en valeur ce sacerdoce royal ou sacerdoce commun des fidèles. Avant, on parlait du prêtre, enfin, d'ailleurs c'est à tort parce que prêtre, chacun de nous l'est, mais disons, on ne distinguait pas entre presbytère et sacerdoce. Et maintenant, on distingue mieux, et en réalité, on devrait mieux appeler les prêtres des presbytres, chacun de nous étant prêtre par baptême. Et cela, c'est Vatican II aussi qui, en parfait accord avec l'ecclésiologie des slavophiles, a redécouvert cette dimension. Ce texte de Lumen Gentium retrouve aussi les intuitions du Concile de 1917-18 en disant que l'Église du Christ, elle se constitue dans et à partir des églises locales. Avant, on avait tendance à dire l'Église, c'est tous ceux qui sont en communion avec le pape, du point de vue catholique, bien sûr. Et le texte du Concile Vatican II dit que l'Église du Christ se constitue à partir dans et à partir in quibus et ex quibus, donc dans et à partir des églises locales. C'est dans et à partir d'elles qu'existe l'Église catholique, catholique au sens de la catholica ecclesia, une et unique. Et c'est donc une insistance sur l'Église locale qui est particulièrement intéressante d'un point de vue œcuménique, car c'est aussi cette Église locale qu'a voulu promouvoir Komiakov, qu'a voulu promouvoir également le père Nikolaï Afanassiev à travers cette notion d'ecclésiologie eucharistique. Le Concile Vatican II promeut l'Église locale à travers notamment la forme des conférences épiscopales. Et le Concile Vatican II, toujours dans cette encyclique Lumen Gentium, va aussi promouvoir donc cette collégialité des évêques. des évêques dont on a reconnu l'ordre, ou plutôt le sacrement, car avant, comme vous le savez, dans l'Église catholique, et c'était un grand tort, on disait que finalement il n'y avait que deux sacrements de l'ordre, le diaconat et le presbytérat. Mais on sacrait des évêques, mais les évêques n'étaient pas ordonnés. Et donc avec Vatican II, cela change, les évêques sont ordonnés, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu remettre à l'honneur l'épiscopat, en reconnaissant cette ordination épiscopale. Pourquoi? Pour contrebalancer Vatican I. Vatican I qui avait, en 1870, proclamé le dogme de l'infaillibilité pontificale. Avec la notion de collégialité, Vatican II a voulu contrebalancer le pouvoir du pape, enfin je caricature bien sûr, mais on peut résumer comme ça, contrebalancer ou équilibrer le pouvoir du pape par le pouvoir collégial des évêques. Cela dit, cette notion de collégialité a été très, très, très critiquée. Bon, elle a été beaucoup promue par Congar, mais après, il a dit que finalement, ce n'était peut-être pas la meilleure manière de procéder. Le père Hervé Le Grand aussi a beaucoup critiqué cette notion de collégialité, car en réalité, ça partait d'un bon sentiment, si vous voulez, de vouloir équilibrer ou contrebalancer le pouvoir papal qui s'est affermi au XIXe siècle par l'autorité des évêques, mais ça s'est fait un petit peu au détriment de l'Église locale. C'est-à-dire qu'on a considéré que finalement le collège des évêques faisait une sorte de contrepoids au pape, mais c'était déconnecté de l'Église locale. Je ne sais pas si vous me suivez. L'Église locale étant présidée par l'évêque, c'est cela qui était important. Il aurait fallu peut-être plus inciter là-dessus, avant que de dire que finalement, le véritable contrepoids au centralisme, c'est l'Église locale, mais ce n'est pas le collège des évêques, car à ce moment-là, on court le risque de voir le collège des évêques s'instaurer comme un organe propre et déconnecté de l'Église locale, même si c'est vrai que c'était aussi peut-être un moment important pour équilibrer le centralisme tel qu'il avait été défini au XIXe siècle, et en particulier tel qu'il est symbolisé par Vatican I. J'en ai fini pour ce rapide exposé de la conciliarité et de la collégialité, avec donc à la fois le fond commun, je crois, qui nous est propre, orthodoxe ou catholique, tout simplement ce souci d'articuler les charismes des uns et des autres au sein de l'Église, sans donner le pouvoir plus aux uns ou plus aux autres, mais en essayant d'articuler les charismes de chacun. Donc nous avons vu que cette notion de conciliarité, elle n'est pas dénuée aussi d'ambiguïté, et que donc il faut toujours finalement revenir aux sources scripturaires, aux sources patristiques, pour que nous redécouvrions ensemble cette articulation des charismes de chacun que permet la Sobornost. Je vous remercie.